Bienvenue au Sermon d'Hypocrite, le podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé, mais ne se trouvent pas en pharmacie. Que ce soit l'alimentation, le sommeil, la méditation ou l'activité physique, tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. Aujourd'hui, je reçois Olivier Maria, alias Low Carb Frenchie, un blogueur passionné par le sport et la cétogenèse, cette pratique alimentaire qui consiste à se passer de glucides pour puiser la quasi-totalité de son énergie dans les lipides. On parlera de comment il a découvert cet univers et comment cela a transformé sa pratique sportive. Eh ben, bienvenue, ouais. Olivier. Merci de te joindre à moi aujourd'hui.
Salut, merci pour l'invitation.
J'aimerais qu'on commence tout simplement et qu'on parle un petit peu de toi. Et tu me dises qui tu es.
Eh bien, écoute, je m'appelle Olivier, j'ai 28 ans, j'habite actuellement à Lille et je suis designer graphique de métier.
Et tu as un passe-temps en dehors de ça?
Oui, voilà, donc ça c'était pour les grandes lignes et j'ai comme passion le sport et l'alimentation et notamment l'alimentation cétogène et je pense que c'est pour ça que tu as voulu m'interviewer aujourd'hui.
Exactement. Et du coup, j'aimerais qu'on parle en fait déjà d'un premier temps, comment t'en es venu à ça? Parce que souvent, tout le monde, les gens qui s'intéressent à leur santé et à leur alimentation vont avoir un parcours un peu du combattant. C'est-à-dire que c'est rare que du jour au lendemain, tu te dises, tiens, je vais tout changer. Et donc, comment est-ce que c'est quelque chose dans lequel t'es tombé?
Ouais, en fait, c'est vrai que quand on change un peu d'orientation alimentaire, ou c'est qu'il y a forcément un point de départ. Donc, je peux un peu te parler de comment je suis arrivé là. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai toujours fait pas mal de sport depuis tout petit. J'ai commencé le foot à 7 ou 8 ans. J'ai fait environ 8 ans de foot. Donc, pendant un peu toute mon enfance, j'ai fait beaucoup de sport. Après, à l'adolescence, j'ai fait un peu de VTT. Puis là, à ce moment-là, j'habitais à Nice. Et au milieu du lycée, j'ai déménagé pas loin de Grenoble, à Voiron, chez ma mère. Et là, en fait, avec le déménagement, j'ai complètement arrêté le sport. Donc, je suis passé de pas mal de sport à zéro sport. Et puis après, j'ai eu toute ma vie étudiante où pendant 4-5 ans, j'ai pas fait une seule fois du sport. Et puis un jour, je suis parti en stage, là j'étais en école de graphisme, je suis parti en stage au fin fond de la Bretagne, dans un endroit vraiment paumé, dans un village de 200 habitants. Et juste avant de partir, quand je faisais mes affaires, je me suis dit, je prends ma paire de baskets qui traîne depuis 2 ans, que j'avais acheté en me disant, tiens, je vais mettre à la course à pied. Je la prends dans mon sac à dos et puis on verra bien. Et donc, je me suis retrouvé dans ce village de 200 habitants et là, je me suis dit, t'as plus que ça à faire, donc mets tes baskets et vas-y, remets-toi à faire du sport. Donc, je pensais avoir encore quelques restes parce que c'est vrai que quand on fait beaucoup de sport, surtout enfant, a priori, le corps garde ça en mémoire. Donc, j'ai pris les baskets, je suis sorti de chez moi et puis j'ai commencé à courir. Donc, ça faisait vraiment très longtemps. J'avais pas transpiré un minimum. Et là, en fait, au bout de 5 minutes, alors que je n'avais vraiment pas allé vite, mais au bout de 5 minutes, j'avais les mains sur les genoux, quoi. Donc, je me suis dit, attends, c'est pas possible, je suis censé être un minimum sportif, j'ai les mains sur les genoux au bout de 5 minutes, je suis écroulé, je vais repartir. Et là, je suis reparti et au bout de 2 minutes, j'étais encore cuit. Donc, j'ai fait ça encore une fois ou deux, je suis parti à 2 minutes et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible d'être aussi nul, quoi. Comme quoi, en fait, le corps, il l'oublie complètement et il devient vraiment faible et mou à force de rien faire. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, quand je fais quelque chose, je le fais un peu à fond. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis mis à faire de la course à pied presque tous les jours ou 4 fois par semaine. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça avec des petites séances de 5 minutes. Puis après, j'ai essayé d'augmenter petit à petit. J'ai arrivé à courir peut-être 4, 5 kilomètres, j'augmentais. Et une de mes plus grandes victoire, mes plus grands sentiments de victoire en sport, ça a été la première fois où j'ai couru 10 km, et ça c'était peut-être au bout d'un mois, je sais pas, donc la première fois où j'ai vu 10 km s'afficher sur mon compteur, c'était vraiment une très grande victoire. Donc là voilà, je me suis remis à faire du sport, je devais avoir, je sais pas, 20, 22, 23 ans, donc un peu à la fin de mes études. Et après ce stage au fond de la Bretagne, je suis retourné à Grenoble. Et là, je savais que j'avais quelques mois à vivre encore à Grenoble parce que j'allais sans doute déménager à la fin de mes études pour trouver du boulot. Et là, j'ai découvert le trail, j'ai découvert les montagnes. J'ai découvert donc qu'on pouvait faire de la course à pied en montagne. Et vu que j'allais partir quelques mois après, j'ai essayé de profiter au maximum pendant les quelques jours qui me restaient, enfin les quelques mois qui me restaient. À faire pas mal de montagnes, à faire du trail. Donc là, c'était vraiment une sacrée découverte, à faire un peu de vélo en montagne, etc. Donc voilà, comme je te disais, ben moi, quand je fais quelque chose, je le fais un peu à fond, ce qui m'a causé quelques torts, quelques problèmes à certains moments, on pourra en parler. Mais voilà, donc je l'ai fait vachement à fond. Et en fait, c'est le sport qui m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de domaines un peu connexe, on va dire.
Dont l'alimentation, c'est
dont,
ça
dont l'alimentation, voilà. Donc en fait, je faisais du sport. Quand j'étais étudiant, je mangeais relativement sainement. Je me faisais à manger tous les soirs. Je mangeais des aliments assez bruts, assez non transformés. Mais malgré tout, en fait, quand on commence le sport, on s'aperçoit rapidement que pour faire du sport et avoir de l'énergie, il faut mettre le bon carburant dans le moteur. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur l'alimentation. Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'alimentation cétogène.
Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est pour toi l'alimentation cétogène? Parce que je pense que derrière ce mot, on trouve beaucoup de
problèmes. Ouais, carrément.
Et du coup, chacun a presque sa définition.
J'en reparlerai un peu plus tard avant de finir un peu sur ma transition alimentaire, on va dire. Mais rapidement, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation où on va utiliser ces lipides et donc ces matières grasses, enfin soit les matières grasses qu'on a en nous, soit les matières grasses qu'on puisse dans son assiette. Et en fait, on va utiliser ces matières grasses comme source d'énergie principale à la place des glucides. Donc en sport, on nous dit tout le temps en sport qu'il faut manger des pâtes juste avant de faire du sport parce que les sucres et les glucides, c'est la principale source d'énergie. Et en fait, en alimentation cétogène, on prouve que ce n'est pas la seule source d'énergie parce que les lipides, c'est une source d'énergie hyper intéressante. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Et en fait, si on revient un peu à mes débuts de sportif, en fait, moi, je me suis dit, je fais du sport, il me faut de l'énergie. Et je vais lire un peu tout ce que je trouve sur Internet sur l'alimentation du sportif. Mais à la base, à ce moment-là, en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'alimentation cétogène. Et je lisais tous les articles, tous les livres qui disaient ce qu'on vient de dire. En fait, en sport, il faut manger beaucoup de sucre, il faut manger le moins de graisse possible. Et donc. Donc comme je te disais, j'avais une alimentation relativement saine, assez non transformée. Mais à ce moment-là, j'ai complètement arrêté les matières grasses parce que je disais qu'il fallait surtout pas en manger. C'est marrant parce que dans les articles sur le sport, l'alimentation du sportif, il y a toujours un petit chapitre sur les glucides. On dit qu'il faut beaucoup en manger. Il y a toujours un article sur les protéines. On dit qu'il faut manger des protéines maigres comme du poulet et tout. Et il n'y a jamais le petit paragraphe sur les lipides en fait. Donc on ne sait pas trop. Apparemment, il ne faut plus en manger. Donc moi, en fait, à ce moment-là, je suis devenu assez radical dans ma façon de manger et je me suis mis à ne plus manger de beurre du tout, plus manger de crème, manger vraiment énormément de glucides. Et moi, je continuais mon sport un peu... Enfin, je continuais à faire pas mal de sport toutes les semaines en mangeant des produits que je faisais moi. Donc à ce moment-là, j'essayais de faire mes barres de céréales maison. J'ai un souvenir d'avoir fait des sorties de vélo avec des genres de sushis, des sushis sucrés avec du riz, du sucre, du chocolat. Enfin,
je faisais mes petites barres de céréales maison.
Ah ouais, t'as fait
ça. J'avais essayé j'avais fait des sushis, enfin des sushis, plutôt des makis.
Ouais.
Des makis avec du beurre de cacahuète dedans.
Ouais, excellent, ouais.
Ça, c'était pas mal. Mais, j'ai même essayé de faire des mochis, mais ça a moins bien marché.
Ouais, ah ouais, ok, bah ça j'avais pas essayé avec la farine de riz, ouais. Ouais, donc en fait à ce moment-là, grâce au sport en fait, j'ai trouvé une certaine passion pour la cuisine et pour faire un peu maison des choses au lieu d'acheter dans le commerce. Donc je me suis un peu, j'ai commencé à m'orienter vers le maison. Et puis donc en fait ça a commencé comme ça. Et donc en fait ça marchait plutôt bien. Donc je faisais mes sorties de sport, mes sorties de en course à pied en vélo avec mes barres de céréales maison. Et bon, bah, ça marchait plutôt bien. Tiens, après, au niveau du poids et tout, bah, j'ai toujours été très maigre. Enfin, j'ai toujours été assez maigre comme un ado qui se préoccupe pas trop de ce qu'il mange, mais qui grossit pas. Donc, j'ai eu cette chance. Et donc, voilà, mes sorties en sport se passaient vachement bien. Donc, je faisais du vélo et tout. Sauf qu'il fallait quand même que je mange à peu près toutes les heures, toutes les demi-heures pour pas avoir de baisse d'énergie. Donc en fait à ce moment-là je me préoccupais pas, enfin ça, je poussais pas trop le sujet plus loin que ça. Donc tant que j'arrivais à pédaler, bah, je continuais. Sauf que j'ai quand même eu deux trois signaux lors de sortie qui m'ont, au fur et à mesure, fait comprendre que ça marchait bien, mais que si j'avais pas ma barre de céréales, eh ben ça c'était assez dangereux quoi.
Tu peux nous
J'ai
décrire un petit
notamment
peu ce que ça
des
donne, ces signaux?
Ouais, bah exactement. En fait, j'ai deux, trois exemples. Par exemple, une sortie vélo où moi j'habitais à Grenoble. Et puis en fait, ce qui est cool à Grenoble, c'est que tu sors de chez toi en vélo avec tes baskets et tu te retrouves à 1000 ou 1500 mètres d'altitude en quelques kilomètres, quoi. Donc moi, je faisais une sortie vélo dans le Vercors, donc c'est sur les hauteurs de Grenoble. Et en fait, je m'étais dit, bon, bah, je sors deux heures, donc je prends pas de pull, il fait chaud, je prends rien à manger, je prends pas d'argent. Bon, c'est complètement débile, hein. Mais donc j'ai fait ça, je suis parti un peu à l'improviste de chez moi. Et en fait, gros coup de fringale, je me suis retrouvé en haut de Vercors. En plus, c'était en fin de journée, il devait être 17h en printemps-été. Donc je me suis retrouvé complètement paralysé, à trembler, à plus pouvoir avancer, à plus pouvoir mettre un coup de pédale, alors que j'étais quand même à 20 km de chez moi, complètement au milieu de rien, vraiment dans la cambrousse. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud, quoi. Donc vu que j'avais pas d'argent, j'avais rien, j'ai trouvé un bar ouvert, un bar PMU ouvert. Et là, j'ai dû rentrer en tremblant, en titubant, en demander du sucre au barman pour espérer pouvoir rentrer chez moi, quoi. Donc en fait, le mec me donne du sucre et moi, si j'avais pas eu cette recharge, je ne sais pas comment je serais rentré chez moi parce que j'étais vraiment à la limite, quoi. Donc ça, je veux dire, l'hypoglycémie, ça. Je pense que tous les sportifs connaissent ça. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc je rentre chez moi un peu comme je peux, en tremblant, grâce au sucre que le mec m'a donné. Donc voilà, et après j'ai plein d'autres sorties, d'autres exemples où, en fait, à cette époque-là, c'était un peu mes dernières années étudiantes et notamment mes derniers 2 mois, de vacances étudiantes. Donc là, je me suis dit que j'avais 2 mois de vacances et que c'était probablement les derniers 2 mois de vacances de ma vie avant de commencer à bosser. Donc là, j'en faisais vraiment trop. Je vivais au camping chez ma mère parce que ma mère pose une caravane 6 mois dans l'année au lac du Bourget en Savoie. Donc là, voilà, je campais au lac du Bourget. Donc c'était tous les jours, c'était soit 100-150 km de vélo, soit 4 heures de trail. J'alternais comme ça pour un peu me reposer. Et à ce moment-là, bah souvent, je finissais enfin, pendant mes balades à vélo, bah, je m'arrêtais aux boulangeries et je dépensais 10 euros dans la boulangerie. Donc, c'était deux canettes de soda, quatre viennoiseries, parce que sinon, je ne pouvais plus avancer, quoi.
Certains cyclistes diront pourtant que l'arrêt à la boulangerie, c'est la base de toute sortie.
Ouais, bah exactement. Ouais. En fait, je pense qu'en sport, on vit avec ça et puis on se dit que c'est un peu normal, quoi. On lit que c'est normal. Donc on sait qu'on va faire du sport et que toutes les demi-heures, toutes les heures, il va falloir recharger parce qu'on sait que nos réserves en sucre sont limitées. Et donc en fait, on accepte ça. Donc moi, je l'avais accepté, je vivais comme ça. Et donc voilà, je continuais. Et puis en fait, parallèlement à ça, eh ben, je commençais à m'intéresser à des gens qui pensent un peu la pratique du sport assez différente, de façon différente. Et j'avais notamment lu le livre de Steve McDougall, qui s'appelle Born to Run. En fait, c'est un journaliste et ultra-trailer américain.
Je pense que tu parles de Chris McDougall, c'est ça ?
Ah ouais, excuse-moi, de Chris McDougall. Ouais, j'avais les livres dans la bibliothèque, je voulais les sortir. Mais Chris McDougall, ouais, bon, on voit que tu connais. Et donc, ouais, Chris, il a écrit un genre de pamphlet qui s'appelle Born to Run. Et en fait, il vante les mérites de la course à pied minimaliste. C'est où la course à pied pieds nus. Donc en fait, moi, un peu dans cette période, j'avais lu ce livre et je m'étais dit, ouais, la course à pied pieds nus, ça a l'air hyper intéressant. La course à pied minimaliste, ça a l'air hyper intéressant. Donc j'avais amorcé une transition vers le minimalisme et vers une autre façon de courir. Parce que comme je te disais, bah, moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Et voilà, donc j'étais un peu dans ce délire course à pied minimaliste, on va changer un peu sa façon de courir, c'est chouette. Et en fait, quelques mois plus...
Tu peux un petit peu ce que c'est peut-être
La course minimaliste ?
Ouais.
Ouais, ben en fait, c'est hyper simple. C'est le principe, c'est qu'on a, en tant qu'espèce, eh ben, on a évolué et on a évolué pour la course à pied. On est vraiment fait pour la course à pied. Et on a couru bien avant que des grosses chaussures qui sont soi-disant protectrices apparaissent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait, enfin, c'est assez admis qu'il faut se protéger avec des grosses chaussures qui nous amortissent le choc pour ne pas se blesser. Donc en fait, c'est assez admis depuis les années 70. Et en fait, il y a tout un courant qui est venu des États-Unis qui a dit, en fait, c'est pas si évident que ça, parce que si on se penche un peu dans la science, on s'aperçoit que depuis que ces chaussures qui amortissent beaucoup, qui sont censées nous protéger, sont apparues, eh ben, on se blesse plus. Donc voilà, tout le mouvement minimaliste, il se base un peu là-dessus et il encourage à retrouver une foulée plus naturelle, soit pieds nus, soit avec des chaussures qui ont très peu d'amortis et qui nous protègent juste des cailloux ou du bout de verre en ville. Donc voilà, moi, je...
C'est essentiellement, tu décris des chaussures où tu as assez peu de matière sous le pied et...
Ouais, exactement. En fait, moi, là, je cours, cours avec...
Où est-ce que tu cours, toi ?
Je cours avec des chaussures, ça c'est à 90% du temps, mais je cours avec des chaussures minimalistes. En fait, c'est juste des chaussons avec une toute petite semelle en caoutchouc, mais il n'y a aucun amorti, aucun drop, ça veut dire que le talon n'est pas surélevé. Donc voilà, moi je cours principalement avec ça. Et bon, après, de temps en temps, je cours encore avec des chaussures plus classique, mais vraiment le plus léger possible. Et voilà, en fait, le principe, c'est que il faut adopter une transition de façon progressive. Donc, en fait, moi, au début, je courais avec des chaussures classiques, mais je courais une fois par semaine avec des chaussures minimalistes. Et puis, au fur et à mesure, c'était deux fois, trois fois, et puis jusqu'à réussir à courir tout le temps avec. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le corps, il s'adapte. Et puis au début, les premières sorties en chaussures minimalistes, les mollets, ils prennent vraiment très, très cher. Et au fur et à mesure, les mollets s'endurcissent, le corps s'endurcit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à courir de façon plus naturelle avec une foulée avant-pied. Donc en fait, c'est l'avant du pied qui va toucher le sol en premier et non le talon. Et c'est ce qui permet au corps d'amortir les chocs. Donc voilà, ça, c'est les grandes lignes sur la course à pied minimaliste ou pieds nus. Et en fait, il se trouve que moi, j'ai lu ce livre et ça m'a vraiment passionné au point de tenter cette aventure minimaliste. Et quelques mois plus tard, il a sorti un deuxième livre qui s'appelle Tous des héros. Et en fait, ce que j'adore par rapport à ce mec, c'est que c'est un journaliste d'investigation qui propose, enfin, qui parle de sujets. Et en fait, il tente l'expérience par lui-même. Donc pour Born to Run, en fait, il fait pas que parler de course à pied minimaliste comme un journaliste, mais il va au Mexique avec les peuples qui courent pieds nus et il va se confronter au sujet par lui-même. Et en fait, dans son livre Tous des héros, c'est là qu'il parle de héros, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale en Crète, donc à côté de la Grèce. Et il parle de personnes donc qui avait découvert des capacités ancestrales, avait redécouvert ses capacités ancestrales du corps humain, d'utiliser ces matières grasses comme énergie pour courir pendant des jours entiers sans rien avaler. Donc,
et là,
moi,
ça a fait clic,
ça.
c'est ça?
Ah ben là, moi, je lisais ça exactement pendant la période où moi, je me gavais de sucre et j'avais mes hypoglycémies terribles en vélo. Et donc là, voilà, je lisais ça et donc, il avait plein d'exemples hyper concrets. Il parlait d'un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un Crétois qui était messager et qui courait des journées entières sans avaler aucune calorie et juste du bouillon d'ortie, si je me trompe pas, donc un truc qui a vraiment aucune calorie. Et donc, il courait des jours entiers pour transmettre des messages. Donc, c'était 80 km dans des terrains hyper escarpés. Et ce qui est marrant, c'est que le journaliste, donc Chris McDougall, eh ben, il a vécu cette aventure en allant se confronter à ce terrain-là et en mangeant ce qu'il mangeait. Et donc voilà, moi je lisais ça, je voyais qu'on pouvait potentiellement courir pendant 3 jours d'affilée sans rien avaler et sans aucune baisse d'énergie. Et je me disais, bah attends, c'est fou cette histoire, comment ça se fait, quoi. Et donc ça a commencé comme ça, en fait. C'est les premières fois où je lisais ce genre de témoignage. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'alimentation cétogène. J'avais jamais entendu le mot alimentation cétogène. D'ailleurs, je pense qu'il n'en parlait même pas dans son livre. Et voilà, donc en fait, ça a fait clic, comme tu dis, ça a fait un certain déclic. Et voilà, comme je te disais, moi, quand je lis quelque chose, eh ben, j'ai tendance à me dire un peu tête baissée, un peu sans réfléchir, bah écoute, je vais tenter, ça coûte rien de tenter. Donc, je vais tenter l'expérience.
Donc tu t'es lancé
Et
un peu comme ça, c'est ça? Avec le livre comme mode
ouais,
d'emploi?
exactement. Ben, en fait, ouais, je me suis lancé un peu comme ça avec le livre comme mode d'emploi, sauf qu'en fait, dans son livre, ben, c'est assez succinct le paragraphe sur, enfin, le chapitre sur l'alimentation cétogène. Il dit juste des grandes lignes, genre, bon, ben voilà, on mangeait des saucisses avec plein de beurre et on mangeait plus de céréales, donc, et puis on avait une énergie folle, mais en fait, il détaillait pas trop son truc, quoi. Donc à ce moment-là, c'était un peu pendant l'été ou la fin de l'été. Et je me suis dit, bah, je me lance, mais sauf que je savais pas trop comment faire. Je me suis un peu lancé tête baissée sans vraiment savoir ce que c'était que les glucides, quel aliment en contenait, qu'est-ce qu'il fallait manger vraiment, etc. Donc voilà, je me suis dit, je me lance, sauf que en fait, je faisais assez n'importe quoi avec le recul. Ça veut dire que je pensais
Alors,
juste
ça
qu'il fallait
ressemblait à
arrêter de
quoi?
manger.
Vas-y, raconte-nous.
Alors, ben, en fait, typiquement, ben, j'avais arrêté de manger des pâtes et du riz parce que j'avais cru comprendre qu'il fallait arrêter de manger des pâtes et du riz parce que c'était ça des glucides. Sauf que je mangeais encore plein de tortillas et de wraps de blé. Enfin, et en fait, j'avais arrêté les pâtes et le riz, sauf que je mangeais des tortillas avec plein de légumes. Et pas mal de légumineuses, de pois chiches, de lentilles, etc. Parce que à l'époque, j'en mangeais pas mal, quoi. Donc en fait, à la base, je ne savais pas du tout qu'il fallait compter ces macronutriments. Je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'un macronutriment. Et si je l'avais fait, ben, en fait, je me serais aperçu que j'avais un régime, on va dire, qu'on peut qualifier de low carb, qui était un peu réduit en glucides par rapport à une alimentation classique, mais ce n'était pas du tout l'alimentation cétogène, quoi. Et en fait, avec le recul, ben, en mangeant comme ça, je ne sais pas si j'aurais atteint ce qu'on appelle la cétose, qui est l'état du corps à utiliser ces matières grasses comme énergie. Donc, a priori, je n'y étais pas du tout. Donc voilà, en fait, quand on commence des choses comme ça, ben, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Et quand j'ai commencé, ben, je faisais pas mal de conneries sans vraiment savoir, quoi.
Et où est-ce que tu es allé du coup pour pouvoir t'instruire? Parce que comme tu l'as dit, bah, tu savais pas trop où démarrer. C'est pas comme si les étagères des librairies débordaient de modes d'emploi.
Ben ouais, exactement. En fait, comme tu le dis bien, il y a très peu de ressources sur l'alimentation cétogène, sur Internet notamment, et très peu de ressources en France. Donc en fait, moi j'avais commencé en cherchant dans les sources du livre de Chris McDougall. Et donc, en fait, dans ces sources, il y a pas mal de ressources vers des livres, vers des auteurs. Mais en fait, c'est que des ressources en anglais. Donc là, j'avais lu un autre livre qui s'appelle Slow Burn de Stu Mittelman. Donc, c'est un livre d'un coach sportif qui proposait une méthode sportif, donc qui soit à la fois de l'entraînement et à la fois sur la nutrition, pour débloquer notamment cette capacité à brûler des graisses, mais aussi, en fait, j'ai mis du temps pour me dire, ben là, je fais le low carb, le cétogène, je sais pas comment ça s'appelle, mais il faut que je recherche d'autres sources sur Internet, quoi. Et en fait, voilà, au bout de quelques mois, à faire un peu n'importe quoi avec le recul, j'ai commencé à davantage éplucher des sites internet de recettes, à éplucher des articles un peu plus théoriques, où là, j'ai commencé au fur et à mesure à comprendre ce que c'était qu'un macronutriment, qu'il fallait bien équilibrer ces macronutriments selon des pourcentages. Voilà. Donc, en fait, c'est des choses assez un peu plus techniques, et je pense que si on veut se lancer dans l'alimentation cétogène, ben, il faut passer par là, quoi. Même si après, on en parlera, mais après, à mon avis, on peut se détacher de tous ces calculs pour avoir une approche un peu plus, on va dire, libérale, selon le caractère de chacun. Mais au début, on est obligé de passer par cette théorie, en fait.
Justement, ouais, ça, j'aimerais bien qu'on en parle, mais j'ai envie que tu me parles d'un truc en particulier, parce que tu as déjà presque fait allusion quelque part. Tu m'as parlé de ce Crétois qui partait pendant 3 jours sans manger. Et il s'avère que toi, tu as fait un petit truc récemment, en 3 jours, qui est quand même relativement conséquent. C'est pas à portée de tout le monde.
Ouais. Alors,
tu nous racontes un petit peu?
Ouais, ben en fait, je vais en parler avec plaisir. Et en fait, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de prouver la possibilité de choses par l'exemple. Parce qu'en fait, on pourra développer, mais en gros, tout ce qu'on peut raconter, je pense que toi et moi, on en est convaincus. Si on le raconte à la personne lambda, ben, ça va lui paraître soit abstrait, soit irréaliste. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on, je te raconterai tout ça, mais j'essaye de parler au plus grand nombre de ces régimes, c'est d'être un peu, on va dire, un exemple sans aucune prétention. Et c'est pour ça que j'essaye de parler un peu de choses que je fais et montrer que c'est faisable, parce que autant un article, tout le monde peut te dire, bah, moi, je crois pas à cet article ou à cette étude scientifique, c'est faux. Par contre, moi, si je te dis que j'ai roulé 250 km sans avaler aucune calorie, avec une nuit en bivouac au milieu, et 500 km en 3 jours avec seulement 20 grammes de glucides, ben en fait, ça, c'est un fait et personne ne peut le contester, quoi. Donc, tu peux croire ou pas à ce que je vais te raconter d'un point de vue théorique ou d'un point de vue scientifique. Par contre, moi, si je te dis que j'ai réussi ça, ben en fait, c'est un fait, donc tu peux pas le contester. Et du coup, ouais.
C'est la démonstration là, par l'individualisation.
Ouais, ben c'est ça, ouais. Donc en fait, pour revenir à tout ça, ben, je m'intéresse, ouais, depuis pas mal de temps aux efforts de plus longue durée, que ce soit en course à pied et en vélo. Même si je suis vraiment novice, hein, en course à pied, j'ai jamais couru plus de 60 km, et en vélo, ben, je lis pas mal de choses en ce moment sur l'ultra cycling, mais je suis nul. Et j'en ai pas vraiment fait, mais voilà, au milieu de l'hiver, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé le marathon de Valence en Espagne pendant l'automne. Et en fait, je me suis blessé pendant ce marathon. Et donc, j'ai eu une fracture de fatigue. C'était début décembre. Et ouais, donc j'ai fait le. Pendant 3 mois, en fait, j'ai plus faire de course à pied. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai ressorti vélo. Et vu que je lisais, j'écoutais des choses qui parlaient du trail cycling, je me suis dit, je vais essayer de mettre mon hamac et mon duvet sur le vélo et puis de partir plusieurs jours. Donc, et puis en plus, c'était en plein hiver. Donc, j'ai fait ça 2 fois. Et la première fois, j'ai fait 500 km en 3 jours et j'ai dormi en soie avec... Enfin, la première nuit avec la tente directement à même le sol, non avec pardon le sans tente mais avec le duvet à même le sol, et la deuxième nuit en hamac. Donc ouais, comme je te disais, moi j'aime bien.
Là c'est quand tu as fait ton voyage de Lille à Rotterdam, c'est ça?
Ouais, donc en fait voilà, j'ai fait Lille Rotterdam, donc Le premier jour, je suis parti, enfin le vendredi soir, je suis parti à 18h après le boulot. Je suis arrivé à Anvers à 1h du matin environ, après avoir roulé 150 km. Donc en fait, juste avant de partir, j'ai mangé, je sais plus trop ce que j'ai mangé, mais j'ai mangé pas mal de viande avec pas mal de matières grasses, de la graisse de porc et du beurre. Et en fait, juste après avoir mangé ça, je suis parti à 18h. J'ai roulé jusqu'à 1h du matin environ. J'ai roulé 150 km en fait, sans rien avaler à part de l'eau. Et après, à arriver à Anvers, eh ben, j'étais un peu fatigué. Donc, j'ai mis mon duvet sur l'herbe et j'ai dormi là, donc sans rien avaler. Et puis le lendemain, je me suis réveillé. Je suis parti à 7h du mat. Et là, je me suis dit, bah, tu feras une pause bouffe. À midi, et en fait, là, j'ai roulé encore 100 km et je me suis arrêté manger vers midi 13h, je crois. Donc voilà, ça, ce qui est marrant, c'est que entre 18h la veille et midi 13h le lendemain, j'ai roulé 250 km avec une nuit dans le froid au milieu, sans rien avaler. Et en fait, sans aucune baisse d'énergie, quoi. Donc voilà, ça. Là, on peut vraiment commencer à parler des intérêts du régime cétogène pour le sport. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu utilises tes matières grasses comme énergie, comme le mec qui courait 3 jours dans le livre là, eh ben en fait, ton corps il va brûler des matières grasses à la place de brûler des sucres, sachant que les réserves en matière grasse du corps, elles sont quasiment illimitées. En fait, ça veut dire que le sucre et les glucides, bah, ton corps, il peut en stocker environ 2-3 000 calories qui sont dans le foie ou dans les muscles ou dans le sang. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ces 2-3 000 calories, eh ben, ça correspond au fameux mur du marathon. Donc en fait, ça correspond à une réserve que tu vas mettre en gros 2-3 heures à brûler. Ça veut dire que le fameux mur du marathon, tout le monde pense que c'est une fatalité. Et ben en fait, ça correspond au moment où tu vas épuiser tes réserves de glycogène du corps. Contrairement à
c'est,
ça.
C'est pas un mur mental en fait, c'est un mur.
C'est, bah biologique. Si, c'est aussi un. C'est aussi un mur mental. Enfin, je pense que tout est lié. Après, moi, je suis pas un expert en mental et tout, mais tu l'es plus que moi. Mais je pense que tout est lié et que si t'as la barrière mentale et que tu penses que tu vas te la prendre, bah, tu as plus de chances de te la prendre. Mais il y a aussi un facteur purement physiologique. Et en fait, contrairement à cette petite réserve énergétique que tu as dans ton corps, eh ben, considérons que chacun d'entre nous a, je sais pas, 10, 15, 20% de matière grasse dans son corps. Eh ben, quelqu'un de 50 kilos, s'il a 10% de matière grasse corporelle, eh ben, il a 5 kilos de lipides en lui.
Ouais.
Donc en fait, potentiellement, ces 5 kilos de lipides, alors je ne sais pas combien ça fait en calories, ça fait 8000 calories par kilo.
C'est 9 bah, par gramme, c'est... je crois. Un lipide, c'est 1 gramme de lipides, bah, c'est 9 calories. Donc du coup, tu
ouais, bah, moi j'avais 8 en tête. Ouais. Mais tu vois, voilà, tu fais 9 fois 5. Tu fais 9000 fois 5, enfin, tu as des réserves énergétiques qui sont quasiment illimitées. Ouais. Et en fait, voilà, la problématique, toute la question, c'est j'ai des réserves dans mon corps qui sont potentiellement quasiment illimitées, sauf que je n'y ai jamais accès. Et comment je vais faire pour y avoir accès. Et donc, là, on divague un peu parce que je parlais de mon exemple d'avoir roulé 250 mètres sans rien avaler. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, avec ce petit week-end vélo, bah, j'ai montré, enfin, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais rouler très longtemps, plusieurs jours, sans rien avaler. Donc, après ces 150 premiers kilomètres, bah, là, j'ai mangé ce que j'avais apporté. Pendant les 2 jours qui suivaient, en roulant de mémoire 230 km le deuxième jour, et 150, je crois, kilomètres le troisième jour, ou 110 kilomètres, je sais plus. Et là, mon alimentation pendant ces deux jours que j'avais apporté, bah, c'était, j'avais fait une quiche aux poireaux avec donc du fromage râpé, du beurre, des poireaux, de la crème que j'avais fait au four. Et j'avais fait cuire de la poitrine de porc fumée au four. Donc voilà, c'est pas mal de protéines, pas mal de viande et de surtout les parties les plus grasses de la viande. Et puis un tout petit peu de légumes pour quelques glucides, quoi. Et
Ouais,
donc
donc
voilà,
au
pendant
bout
ce
du
week-end.
compte, c'est quoi? Tu disais 20 grammes en tout, c'est ça?
Moi j'estime à 20 grammes, même si j'ai pas
Approximativement, ouais,
vraiment
bien sûr.
pesé. Approximativement. Sachant, bon là, je vais dire quelque chose qu'il faut pas suivre quand on a en alimentation cétogène, mais bon, je dis quand même, mais j'ai mangé trois tout petits biscuits qu'on m'a offert avec le café lorsque je faisais des pauses café, qu'il y avait un petit spéculoos, quoi. Donc en fait, dans mes 20 grammes de glucides, je pense qu'il y avait, j'estime en moyenne haute qu'il y avait 10-15 grammes, c'était ces petits spéculoos, quoi.
Ah là là, tu vas
Mais
être fouetté par la blogosphère
je vais être
cétogène.
fouetté. Ouais, bah exactement, ouais, non, mais tout ça pour dire qu'il y a aussi une notion de quantité et que, je veux dire, si je mange un spéculoos alors que j'ai roulé 500 km, bah, mon corps il est quand même capable de brûler des graisses, même si je conseille à personne de le faire. Donc ouais, en fait, si je reviens à ce qu'on parlait au niveau théorique, ouais, en fait, ce qui est passionnant là-dedans, c'est que on sait qu'on a tous une réserve d'énergie, que ce soit pour le sport, mais à la fois dans la vie de tous les jours, qui est absolument illimitée. Sauf qu'en fait, le corps ne va jamais taper dedans. Parce que, en fait, pour le corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'il aura des glucides et des sucres à portée de main, il n'a aucun intérêt à taper dans sa réserve de lipides, qui est plus une réserve secondaire, on va dire, une réserve au cas où il n'y a plus assez de glucides, quoi. Et en fait, si on se penche un peu au niveau de l'évolution, eh ben, on se doute bien que l'être humain a déjà vécu des périodes de son existence sans avoir de glucides. Ça veut dire que, je sais pas, imaginons l'homme préhistorique, eh ben, il n'avait pas son plat de pâtes et il était obligé d'aller chercher sa nourriture. Et je pense qu'il mangeait pas. Parfois, il courait pour aller chercher sa nourriture pendant 2-3 jours d'affilée sans manger. Et on a survécu en tant qu'espèce comme ça, quoi.
Tu viens de m'amener à la pensée, l'image du Cro-Magnon sortant son gel pour attraper un mammouth.
Ouais, exactement, ouais. Ouais, donc en fait, c'est là, en gros, quand on fait un marathon, moi je m'intéresse à tout ça, donc je lis tout, je sais ce que les gens font, mais quand on fait un marathon, on a sa ceinture de gel et puis on mange un gel tous les 5 km et on pense qu'on ne peut pas faire autrement. Bah, l'homme du Cro-Magnon, il devait bien courir et faire du sport pour manger et il n'avait pas ses gels, quoi. Et en fait, voilà, on est capable de vivre sans réserve de glucides et sans manger toutes les 3 heures, à condition d'apprendre à son corps à utiliser ses lipides. Et en fait, dans nos sociétés modernes, avec notre mode de vie moderne, eh ben, on a complètement perdu cette capacité qui est assez incroyable du corps. Et en fait, tout l'enjeu, via l'alimentation et un peu via le sport, c'est de redébloquer ces capacités qui sommeillent en nous, en fait.
Et du coup, aujourd'hui, toi, tu partages du coup ton expérience sur ton blog, hein, qui est plein de recettes, hein, ou pour le coup,
Ouais.
que tu partages, en tout cas, régulièrement, tout ce que tu es en train de préparer, tes explorations culinaires. J'ai vu pas mal de choses d'ailleurs qui étaient un petit peu familières par rapport à ce que je peux faire à la maison.
Ouais.
Et y a un article qui avait retenu mon attention, puisque c'est par celui-là que j'ai découvert ton blog. C'est jusqu'où peut-on penser différemment? Et celui-là, je pense qu'il mérite qu'on en parle un petit peu, parce que tu racontes un petit peu comment tu vis en fait cette alimentation dans la société moderne dont tu viens de parler, et comment elle est perçue par les autres.
Exactement, ouais. Ouais, mais en fait, comme je te disais, Depuis le début, en fait, l'alimentation cétogène, c'est un régime alimentaire qui est vraiment en décalage avec les recommandations nutritionnelles, on va dire, officielles, et donc qui est en décalage avec ce que tous les gens pensent sans avoir déjà réfléchi sur ce qu'ils mangeaient, parce qu'en fait, se nourrir, c'est quelque chose qu'on fait de façon un peu inconsciente et on intègre des recommandations et on les fait siennes, mais sans vraiment savoir qu'on a intégré des recommandations. Que par exemple, enfin, tout le monde sait qu'il faut a priori limiter au maximum sa consommation de beurre et de crème, qu'il faut manger des produits pas gras, qu'il faut manger des pâtes et des féculents pour être en forme, sans vraiment questionner ses recommandations. Et donc, vu que le régime cétogène, c'est une alimentation qui est en décalage complet avec les recommandations officielles, puisque nous, en fait, on affirme qu'il faut manger environ 80% de ses calories en matière grasse, qu'il faut manger beaucoup de matière grasse saturée parce que ça ne file pas des AVC, qu'il faut manger salé. Donc forcément, ça, c'est des recommandations qui sont en décalage avec ce que les gens, ce que tout le monde pense. Et d'ailleurs, avant d'être en alimentation cétogène, j'étais le premier à dire, quoi, tu manges pas de glucides alors que tu fais du sport, t'es fou et tout. Donc, je comprends totalement que la pensée on va dire, du grand public. Et donc voilà, après toute la question, c'est de vivre en société avec ce décalage, de continuer à avoir une vie sociale, de continuer à avoir une vie de famille, vivre, continuer à manger au boulot, sachant que mes tupperwares au boulot ne ressemblent pas du tout aux assiettes, des gens qui sont en face de moi. Et ouais, donc c'est à ce propos que sur mon site, j'ai écrit un article qui était Jusqu'où peut-on penser différemment? C'était un peu autobiographique, mais je me demandais pourquoi en fait certaines personnes étaient complètement fermées à l'idée qu'on puisse penser différemment. Parce qu'en fait, moi, oui, je mange un peu différemment par rapport aux autres, c'est-à-dire que je ne mange pas de pâtes, je mange beaucoup de beurre et encore au boulot, je me limite un peu dans ma consommation de beurre parce que je connais les réactions de chacun. Mais pour autant, ben, quand j'en parle à des amis, quand j'en parle à ma famille, ou à des gens qui sont un minimum curieux, ils me disent, écoute, c'est bizarre ce que tu fais, mais bon, a priori, c'est quand même intéressant, si tu as envie de le faire, fais-le, on s'en fout. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui acceptent pas du tout, qui acceptent pas du tout qui acceptent pas du tout ça et qui se braquent vachement. Et en fait, je me suis aperçu que avec la grande majorité des gens, c'est quand même dur de discuter de ça parce qu'ils se braquent vite et il y a des réactions qui sont un peu tristes, je trouve. Enfin, par exemple.
Tu penses que c'est lié à quoi justement cette résistance, enfin ce braquage justement?
Ben, je pense qu'on n'est pas forcément prêt dans nos sociétés à accepter qu'il y ait des gens qui pensent, qui fassent différemment que ce qu'on devrait faire. Et après, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je sais que dans les regards que j'ai eus, je sentais une certaine jalousie en voyant que je mangeais beaucoup de beurre et pourtant j'étais maigre comme un clou, alors que en face c'était des personnes qui avaient l'impression de suivre les recommandations à la lettre et les recommandations par exemple manger moins de calories donc s'affamer. Donc je me mets un peu à leur place, je me dis moi je suis des recommandations pour maigrir, j'ai tout le temps faim parce que je mange peu, pour autant j'arrive pas à maigrir, et le mec en face de moi il est maigre comme un clou alors qu'il mange énormément de beurre. Il y a une part d'injustice et je comprends les réactions de ces gens-là, quoi. Et donc en fait à ce moment-là, moi j'adore parler de mon alimentation et tout ça, donc j'essaye d'en parler. Et c'est vrai que la plupart du temps, je vois en face de moi que pas mal de gens ne sont pas prêts à en parler et à accepter qu'on puisse penser différemment à l'alimentation, quoi.
J'ai observé déjà la même chose. Hein. C'est aussi pour ça que ton point de vue sur le sujet m'intéressait. Et je pense que ce que j'ai beaucoup observé, c'est que les personnes qui sont quelquefois les plus résistantes à ce genre de sujet sont celles qui finalement ont le moins cherché à questionner en fait le pourquoi. C'est pas je fais ceci, fais cela, c'est ok, il faut faire ça, mais pourquoi ?
Et ah, exactement. Ouais.
C'est juste, ils ont décidé que ils allaient faire confiance à telle personne, et ensuite, enfin, de là à savoir à qui faire confiance, ça c'est compliqué, je veux dire. Mais ils ont choisi de faire confiance à une source, mais ils se sont jamais posé la question de pourquoi ils leur faisaient confiance.
Ouais, exactement. Je pense qu'on, la société, enfin la vie, c'est compliqué, donc on est obligé d'avoir des mentors ou des, on est obligé de suivre des gens à qui on fait confiance et des recommandations parce qu'on peut, on peut pas tout savoir sur tous les domaines. Moi, je suis pas scientifique, j'y connais rien, mais quand je lis des articles sur l'alimentation cétogène ou autre, ben je fais confiance à quelqu'un qui a fait de la vulgarisation scientifique, ou donc on est obligé d'avoir des mentors ou de suivre des sources qui sont pas les siennes. Pour autant, je pense que c'est un peu, ça dépend un peu du caractère de chacun. Moi, j'ai toujours eu besoin de me dire bah, pourquoi je fais ça, comme, exactement comme tu dis. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, eh ben, je trouve qu'on grandit plus et c'est plus intéressant de savoir pour quelle raison on le fait et pas juste exécuter un peu ce qu'on dit. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai commencé l'alimentation cétogène, j'ai commencé la course à pied minimaliste, même si en course à pied minimaliste aussi, tout le monde m'a pris pour un fou. Hein. Si je prends l'exemple, je change un peu de sujet, mais je cours dans un groupe de course à pied et au début, je n'osais pas mettre mes chaussures minimalistes parce que je me disais, mais pour qui ils vont me prendre ? Et puis un jour, je me suis dit, bah là, peu importe le regard des autres, j'ai envie de m'assumer comme je suis, je vais mettre mes chaussures minimalistes. Et là, là, ça a été des regards, mais complètement ébahis. Et on m'a demandé, mais c'est quoi ça ? Tu cours avec des chaussons ? Et il y avait... à la fois de la compréhension et à la fois un peu de rire, un peu moqueur, mais bon, pas méchant, mais donc voilà, dès qu'on fait un pas de côté par rapport à ce qu'on nous dit de faire, et ben en fait on est un peu différent des autres et on reçoit pas mal de critiques et enfin mais en même temps je comprends. Donc moi, comme je te disais, je vis avec j'accepte ça parce que j'adore en parler. Et puis je sais que la plupart des gens sont quand même assez ouverts et on peut avoir des discussions. Mais malgré tout, je pense qu'en grande partie, pourquoi pas mal de gens ne se lancent pas dans ce genre de choses ou ne se lancent pas dans un point de vue différent sur n'importe quel sujet, c'est parce qu'il a peur d'être différent des autres, quoi, et de faire les choses différentes parce qu'il se dit, mais comment on va me regarder, comment ça va se passer. Et puis... des fois, on a peur de quitter son confort, alors que pour autant, je pense que on n'a rien à perdre et que ça coûte rien d'essayer si ça nous paraît intéressant. Et puis, de toute façon, si ça marche pas, bah, qu'est-ce qu'on a à perdre, quoi ? Je veux dire, l'alimentation cétogène, chacun peut essayer. Bah, si ça marche pas, il le sent pas, il suffit d'arrêter. Et puis, on n'a rien perdu. Au contraire, je pense qu'on a appris sur soi et que c'est le plus important.
Je pense que c'est quelque chose d'important ce que tu dis là-dedans, parce que je l'ai déjà pu voir professionnellement, mais tu as le simple fait d'expérimenter un petit peu avec les différents principes, hein, c'est-à-dire que même dans lorsqu'on parle d'alimentation cétogène, il y a beaucoup d'écoles différentes. Tu as des gens qui vont faire une alimentation cétogène qui va être vegan, d'autres qui vont être complètement à l'opposé sur le bord du carnivore, d'autres qui sont donc du coup dans tout le spectre au milieu, hein, avec des gens qui mangent beaucoup de légumes et pas mal de produits animaux aussi. Tu en as qui vont intégrer des sucrants artificiels. On va trouver un peu de tout. Ouais, et en fait, c'est un peu, quelque part, la réponse, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce qui marche pour toi, en fait.
Ouais, exactement. En fait, quel que soit le sujet, tu vas lire des preuves scientifiques complètement contradictoires. Donc il y en a qui vont dire en effet il faut surtout manger des glucides, c'est dangereux de pas en manger, d'autres qui disent il faut pas en manger, d'autres qui disent il faut manger de la viande, d'autres qui disent il faut surtout pas manger de la viande, il faut manger crudivore ou il faut cuire ses aliments, il faut manger des produits laitiers ou non. Donc ouais, en effet, il y a vraiment moyen de se perdre dans tout dans toutes ces recommandations. Et je pense que d'une certaine manière, on a intérêt à perdre un peu les gens pour pas qu'ils réussissent à prendre en main leur santé ou pour qu'ils restent un peu dans cette logique de bah, on lit tout et son contraire, du coup, bah, moi je fais rien parce que je suis un peu paralysé dans tout ça. Et ouais, même au niveau de l'alimentation cétogène, comme tu disais, c'est un microcosme, mais au sein de ce microcosme, il y a énormément de points de vue différents. Il y en a qui disent qu'il faut manger 80% de matière grasse. En ce moment, ce qui ressort pas mal, c'est bah non, il faut manger énormément de protéines. Bah, c'est compliqué de se retrouver, mais en même temps, je pense qu'il faut expérimenter si on sent que ça nous paraît cohérent. Et puis, il faut vraiment faire en fonction de son ressenti et en fonction de soi. Parce que comme tu disais, on est tous différents. Et ce qui marche pour un, ça ne marchera pas pour l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne suis pas prosélyte au niveau du cétogène à tout prix. Je veux dire, ça marche pour moi. Pour autant, si ça ne marche pas pour quelqu'un d'autre, eh ben, c'est qu'on est tous différents. Et même moi, je veux dire, je suis à fond là-dedans depuis 3 ans et demi. Pour autant, si un jour je me rends compte que j'ai fait une connerie et qu'il faut que je change, si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui marche plus pour moi et que ce n'est pas l'alimentation cétogène, bah, je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans une idéologie, dans un carcan. Il faut rester ouvert et quand même prendre un peu de recul sur sa pratique, quoi.
Et j'ai un truc dont je voulais te parler justement, c'est comment est-ce que tu fais cohabiter ça avec tes proches ? Donc à la maison, quand c'est toi tout seul, j'imagine que bah, du coup c'est facile, tu manges ce que tu veux.
Ouais.
Mais on n'est pas toujours tout seul à table.
Ouais, bah, en fait, au début, quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, c'était assez difficile parce que j'avais un peu peur de m'assumer et de dire aux gens, par exemple, quand j'étais invité, que je mangeais comme ça et que du coup, si ça les dérangeait pas que je mange pas de glucides ou alors qu'ils me préparent un petit truc en plus. Et en fait, du coup, au début, c'était assez difficile j'avais un peu du mal à me faire inviter, j'avais un peu du mal à assumer tout ça. Donc, c'était assez dur à vivre. Et en fait, avec le temps, bah, ça devient tellement une habitude. Et j'ai pu expliquer ça à tous mes proches. Et donc, maintenant, tout le monde est au courant. Et quand je vais chez mes parents, bah, ils savent que je ne vais pas manger de pâtes, donc je mangerai autre chose. Mais ça, c'est vraiment... Maintenant, c'est vraiment entré. Ils ont vraiment accepté ça. Et puis après, dans ma vie de tous les jours, bah, je vis avec ma copine. Et en fait, ça se passe assez facilement, d'autant que j'adore cuisiner. Donc, c'est souvent moi qui cuisine, ou alors on cuisine à deux. Mais en fait, l'alimentation cétogène, d'un point de vue social, on a l'impression que ça va être compliqué. Mais en fait, quand tu as pris l'habitude, bah, c'est hyper simple à vivre, quoi. En fait, je te donne un exemple assez simple. Bah, si tu vis en famille, que toi, tu pratiques l'alimentation cétogène et que ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants ne la pratiquent pas, et ben en fait, tu fais une portion de féculents, tu fais une portion de légumes, tu fais une portion de protéines. Et après, toi, tu vas te servir en légumes, en protéines, en matière grasse, et tu vas juste laisser les féculents, tu ne vas pas les toucher. Par exemple, pour entrer plus dans les détails, je ne sais pas, par exemple, imaginons que tu fasses une ratatouille avec... une ratatouille avec un poulet rôti et du riz, et ben en fait, tout le monde dans la famille va manger le riz, va manger la ratatouille et va manger le poulet. Toi, ben, tu vas manger la ratatouille avec la sauce tomate et tu vas manger le poulet et tu vas laisser le riz de côté. Donc en fait, il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente, un équilibre, de ne pas faire subir, on va dire, ton alimentation aux gens parce que c'est un choix personnel avant tout. Et pour autant, rester toi en alimentation cétogène, parce qu'en fait, on vit dans une société où les glucides sont omniprésents. Je veux dire, les recommandations officielles, c'est quand même de manger 50 à 60% de ses calories en glucides. Donc, on vit dans une société où il faut manger du pain et des pâtes à tous les repas. Ben, pour autant, on s'aperçoit qu'avec l'expérience, je me suis aperçu que on peut se faire plaisir en mangeant, on peut manger des choses hyper savoureuses sans manger de féculents. Par exemple, Bah, si tu manges des pâtes à la bolognaise, si tu manges des pâtes à la carbonara ou des pâtes au pesto, bah, en fait, c'est hyper bon. Mais ce qui est bon dans ton plat, c'est les pâtes, mais c'est aussi et surtout la bolognaise, quoi. Donc, typiquement, bah, en alimentation cétogène, à la place de manger des pâtes à la bolognaise, bah, tu manges des spaghettis de courgettes à la bolognaise. Les spaghettis de courgettes, tu les fais avec un petit outil qui te permet de faire des spaghettis, sauf que c'est des courgettes. Et en fait, tu retrouves toutes les saveurs que tu avais dans les spaghettis bolognaises. Tu peux manger asiatique, tu peux manger mexicain, retrouver toutes les saveurs des épices, sauf qu'en fait, tu enlèves les pâtes, tu enlèves les tortillas de blé, et tu as toutes les épices en bouche, quoi. Donc en fait, voilà, tu peux avoir une vie sociale épanouie et ne pas vivre dans une grotte tout en mangeant cétogène. Tu peux aller au resto, enfin, il n'y a pas de souci, tu trouves toujours une alternative. Donc voilà, ouais, tu peux, c'est largement faisable, quoi.
D'autant que c'est pas une alimentation qui est, enfin, tu manges des choses qui sont déjà présentes dans les assiettes des gens. Et après tout, des gens
Ouais,
avec des régimes
exactement.
particuliers, je veux dire, ça fait des années qu'on a l'habitude de s'adapter aux habitudes alimentaires de nos amis qui peuvent être végétariens, véganes. Bah, là aussi, on devait peut-être changer ce qu'on faisait, bah, parce que si on ne pratiquait pas la même chose qu'eux, on s'y est fait
Ouais,
quelque part.
exactement, ouais.
Et je veux dire, la première fois, ça peut faire un petit peu peur, hein, mais je me souviens encore de la première fois que j'ai dû faire un repas complètement végétarien. Au début, j'étais un peu perdu. Ça
Ouais.
remonte maintenant. Mais bon, une fois que tu l'as fait, tu fais, oh oui, en fait, c'était plutôt facile. C'est juste des choses que je mangeais d'habitude
Ouais,
et j'ai pas
exactement.
mis d'autres trucs. J'ai
Ouais,
pas
c'est
mis les
clair,
côtelettes de
tu...
veau que j'avais prévues et j'ai fait
Ouais,
un autre plat
ouais.
de légumes à la place.
Ouais, je pense qu'il faut... Il y a une part de privation, forcément, parce que tu... Eh ben oui, tu pourrais manger des pâtes et t'en manges pas. Tu pourrais manger du sucre et t'en manges pas. Mais en fait, je pense qu'il faut pas vivre ça comme une privation. Il faut voir tout ce que ça t'offre en plus. Et puis, en plus de ça, moi, je dis souvent qu'en fait, on se prive tous de façon inconsciente d'une chose ou d'une autre. Et en fait, par exemple, si tu as l'impression de manger tout, mais que tu manges pas trop de beurre parce qu'on t'a dit qu'il fallait manger pas trop de beurre, bah, d'une certaine façon, tu te prives un minimum. Et je pense qu'on peut pas tout manger en toutes les quantités, tous les jours. On peut pas tout faire. On vit forcément dans un cadre qui est un peu limité. Genre, je peux pas. Enfin, je pourrais techniquement fumer un joint et me piquer tous les jours. Bah, je le fais pas parce que je considère que c'est pas bon pour moi. Donc en fait, je pense que le plus important dans tout ça, en alimentation cétogène, mais comme tu disais, dans toute autre alimentation qui s'affirme comme par exemple végétarienne, végane, crudivore, je ne sais quoi. Le tout, c'est de savoir pourquoi on le fait et de comprendre qu'on considère personnellement qu'il y a des aliments qui sont bons pour soi, des aliments qui sont un peu moins bons. Et quand tu comprends ça, ben en fait, tu prends vachement de plaisir à consommer un aliment en sachant qu'il est bon aussi pour ta santé. Je veux dire, moi, je mange plus de gâteaux et de sucreries depuis pas mal de temps. Pour autant, ben, je sais qu'un croissant, je sais qu'un gâteau au chocolat, c'est hyper bon. Ça fait plaisir quoi d'en manger, parce que c'est hyper bon pour le palais, etc. Pour autant, ben, je me suis aussi tourné vers d'autres aliments dont je n'avais pas l'habitude de manger, parce que maintenant que je sais qu'ils sont bons pour moi a priori, eh ben, j'y porte plus d'importance. Donc en fait, au bout d'un moment, tu penses même plus à ce que tu as, entre guillemets, plus le droit de manger ou à ce que tu t'autorises plus à manger.
Il y a
Si
des
tu te
trucs que
concentres
tu as
sur ce que tu
redécouvert?
t'autorises. Ouais, bah, au niveau des légumes, avant, quand j'étais étudiant, je mangeais que des courgettes et des carottes. Là, je mange énormément de légumes différents, du fenouil, des choux de Bruxelles, alors que je pensais que c'était dégoûtant. Après, au niveau de la viande, bah, j'ai redécouvert tout ce qui est abats, donc foie. Après un peu de cervelle et tout, j'en mange un peu moins, mais voilà, la redécouverte des abats parce que c'est des produits qui sont hyper riches en nutriments. Ouais, bah après tu découvres plein d'autres aliments et c'est cool de manger en sachant que tu peux te faire plaisir d'un point de vue gustatif tout en mangeant des aliments où tu sais que c'est bon pour ta santé, quoi. Donc moi, non, je suis plus trop dans un. En fait, je suis dans l'alimentation assez classique. On a l'impression que si c'est bon, eh ben, ça va être un aliment culpabilisant, ou alors ça va être quelque chose qui est pas vraiment sain pour la santé. Donc il va falloir limiter, je veux dire. En gros, on a l'impression qu'il faut un peu s'ennuyer dans son assiette tous les jours de la semaine. Et puis, si tu veux te faire plaisir, tu manges un hamburger, mais tu sais que c'est pas très bon. En alimentation cétogène, ben, c'est un peu. Moi, je considère plus qu'on peut se faire plaisir au quotidien. Il faut se faire plaisir. Tu peux manger des choses hyper bonnes et pour autant bonnes pour ta santé, quoi.
Et
Et ça, ouais.
ta compagne, du coup, elle est sur le même registre que toi ou est-ce qu'elle mange différemment?
Non, pas du tout. Ben, elle mange de façon plus classique et moi, j'essaye de pas être trop dans le prosélytisme. Donc, j'essaye de pas l'ob... enfin, je l'oblige pas. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec ses connaissances et avec sa motivation. Donc voilà, elle mange une alimentation plus classique. Après, pour autant, la plupart du temps, elle mange les mêmes plats cétogènes ou low carb. Sans que je la force, mais pour autant, voilà, comme je te disais, si elle a envie de manger un dessert ou si elle a envie de manger du riz en plus, et ben, il n'y a aucun souci, quoi. Moi, j'aime bien lui cuisiner des plats non keto. Dernièrement, j'ai fait des gnocchis maison, donc c'est pas du tout cétogène, mais je me suis amusé à les faire. Et voilà, quoi. Chacun doit vivre un peu comme il l'entend et on n'a pas à faire de prosélytisme. Moi, je veux dire, les véganes prosélytes, ça me saoule un peu. Pour autant, je respecte totalement des véganes qui le font parce qu'ils ont l'impression que, enfin, parce qu'ils pensent que c'est la meilleure chose.
Quelqu'un qui voudrait par exemple aujourd'hui s'aventurer un petit peu sur ta voie, je sais que tu as un petit guide sur ton site que tu appelles Guide Ultime.
Ouais.
Du coup,
Ouais, bah, ça, c'est pour faire un peu. Pour que ça marche un peu sur Internet, il faut souvent employer des mots qui donnent envie de cliquer. Ouais, ben en fait, moi j'ai commencé à envoyer mes photos de recettes à ma famille juste pour le fun, pour leur dire, tiens, regardez, c'est cool, je viens de manger ça, regardez, j'ai mangé ça. Et après leur envoyer ces photos, je me suis dit, bah, je vais me créer un compte Instagram pour les mettre. Et puis donc voilà, je mettais un peu mes plats au quotidien, sans prétention. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, j'ai vu que ça marchait un petit peu. Et puis après, les gens m'ont demandé des recettes. Et puis Instagram, c'est pas vraiment fait pour développer des recettes. Et un peu plus tard, j'ai créé un site internet pour développer mes recettes. Et voilà, donc je me suis vraiment par hasard, parce que comme je te disais, c'est pas quelque chose qui a été calculé. Je me suis un peu lancé on va dire, en tant qu'influenceur low carb ou cétogène. Un peu malgré moi, mais maintenant je m'amuse à parler de tout ça, donc sur Instagram, sur mon site internet, j'ai une page Facebook, et puis donc voilà, j'écris des recettes, j'essaye d'écrire quelques articles un peu plus théoriques pour que les gens s'y retrouvent, parce que comme on disait en off avant de lancer l'interview, ben en fait il y a très peu de ressources sur cette alimentation en français. On est vraiment peu à écrire. Que ce soit des recettes ou écrire des guides ou des parties plus théoriques. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était assez intéressant d'en parler, parce que les gens sont quand même à la recherche de ça, et puis ça permet de faire connaître ce régime au plus grand nombre. Et puis aussi au niveau du sport, ben en fait, déjà, comme je te disais, il y a peu de ressources en français en alimentation cétogène. Mais alors en alimentation cétogène et en sport, mais c'est vraiment néant, quoi. Moi, j'ai. Dernièrement, j'écrivais des articles à ce propos et je faisais des recherches sur des auteurs qui me paraissaient vraiment être fondamentaux au niveau de ces recherches. Donc vraiment des gens qui ont créé des études scientifiques qui sont vraiment hyper importantes dans ce domaine. Et en fait, quand je tapais leur nom sur Google, il n'y avait rien qui sortait en français. Mais vraiment rien, quoi. Les auteurs dont je te parle, c'est Finet et Wolek qui ont écrit plusieurs livres sur l'art de l'alimentation cétogène et l'art de la performance cétogène. J'ai plus le nom en anglais vu que c'est des choses traduites. Mais voilà, quand je tapais leur nom et leurs études sur un Google, et ben il n'y avait rien qui sortait, quoi. Je me dis, bah, attends, c'est pas possible. Donc voilà, là j'ai comme projet de parler de sport et d'alimentation cétogène en parlant de mon expérience personnelle. Donc voilà, faire des articles sur ce que j'ai fait en vélo ou en course à pied, sur mon expérience personnelle, mais aussi d'écrire des articles en français sur des études fondamentales sur le sujet, des témoignages d'autres personnes, etc. Donc voilà, je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui en parlent, toi avec ton podcast et ton site aussi, des gens qui parlent de ces domaines parce que c'est encore très peu connu. Et s'il y a des influenceurs qui commencent à en parler, bah, ça va peut-être grossir et qui sait, un jour on arrivera comme dans les pays anglo-saxons, et à être vraiment connu. Et maintenant, comme on le disait en off tout à l'heure, et ben, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, et ben, tout le monde sait ce que c'est que l'alimentation cétogène. Tout le monde ne le fait pas ou quoi, mais c'est vraiment rentré dans le langage commun et c'est accepté. Et grâce à ça, d'un point de vue scientifique, les médecins aussi s'ouvrent à ça, quoi.
Alors, je ne sais pas si c'est accepté, parce que après, lorsqu'on parle d'alimentation, c'est sûr que tu trouves. Enfin, les camps sont très tranchés, on va dire. Mais
Bien sûr.
en revanche, il y a une conversation. C'est-à-dire que les gens ne sont peut-être pas d'accord et considèrent que les autres ont tort, et peut-être que la conversation est un peu stérile, mais il y a une conversation. Et c'est vrai
Ouais, bien
que
sûr.
c'est un petit peu, je pense, ce qui nous manque aujourd'hui en France, hein, et puis simplement dans la sphère francophone. Hein. C'est
Ouais,
que
bien sûr.
quelque part il n'y a pas de conversation. On a, enfin, je sais qu'il existe des groupes Facebook, des petites communautés en fait, qui font ce genre de choses et qui en parlent entre eux, mais ça reste des choses assez fermées. Il y a assez peu de gens qui en parlent ouvertement.
Ouais, bien
Et
sûr.
du coup, forcément, c'est difficile d'avoir une conversation. Si le simple mot en fait n'évoque rien, donc le simple fait
Ouais.
de pouvoir définir si on parle de cétose ou de cétogenèse, et que bah, à partir de là il faut déjà commencer par faire la définition, c'est un peu compliqué. Alors que en revanche, si on parle, alors, je sais pas, on va avoir l'impression que je tape dessus, mais c'est juste pour prendre le principe du véganisme. À une époque, personne ne savait ce que c'était que le végétalisme. Ou le
Ouais, bien
véganisme.
sûr.
Maintenant, c'est une terminologie qu'on cerne très bien. On sait ce que, enfin,
Ouais.
on cerne très bien. Au moins, on comprend ce que c'est. On sait pas forcément
Ouais, bien
dans
sûr.
le grand public. Tout le monde ne sait peut-être pas exactement en quoi ça consiste. Mais ils ont une idée du principe. Et donc, ils se disent, OK, ces gens sont dans cette partie du spectre alimentaire. Ils sont plutôt de ce côté-là. Moi, j'y suis pas. Et du coup, si j'ai envie d'expérimenter, bah, je peux peut-être me diriger vers ça. En
Bien
revanche,
sûr.
bah, là, du coup, tu te retrouves avec quelque part un coin dans lequel tu peux aller regarder pour peut-être trouver une solution, mais tu n'as pas beaucoup d'autres options finalement.
Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, c'est vrai que on parlait du grand public qui est un peu frileux et qui a souvent peur de penser différemment. Mais c'est vrai aussi dans les domaines scientifiques et médicaux. Et là, je trouve ça un peu dommage parce que la science, la médecine, c'est des domaines qui sont censés être assez objectifs, c'est-à-dire que bah, tu pars d'une hypothèse, tu sais pas si elle est vraie ou pas, tu la confrontes à la réalité scientifique, à l'expérimentation. Et en fait, l'expérimentation, elle est censée être implacable. Et si l'expérience te dit ce résultat, a priori, eh ben ça, tu dois accepter ce résultat et tu dois changer ton point de vue, ton regard en fonction du résultat. Et malheureusement, j'ai l'impression que la médecine, eh ben c'est fait d'une certaine manière où en fait on a admis des choses qui sont assez dures à remettre en cause. Et en fait, je pense que d'un point de vue scientifique, il y a encore vachement de réticence à étudier de façon un peu décalée par rapport à ce qu'on pense vrai, Alors que je pense qu'on aurait tout à gagner, les scientifiques auraient tout à gagner à étudier, par exemple, l'alimentation cétogène, mais autre chose. Moi, je ne veux pas parler que pour ma paroisse. Tu vois, par exemple, je pense à Tim Noakes, qui est un Africain du Sud, qui est un des plus grands scientifiques et médecins et défenseurs de l'alimentation cétogène. Ben lui, il se prend des procès, il se prend des attaques parce qu'il pense un peu différent, en dehors des clous. Et en fait, ça gêne vachement, quoi. Alors que c'est un mec qui fait des études et a priori, si tu regardes avec un point de vue assez neutre, eh ben tu dois prendre des enseignements des études qu'il a dit, quoi. Après, je ne veux pas être dans la théorie du complot à dire on est les vilains petits canards, personne ne nous aime, personne ne veut nous regarder, mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même une inertie dans le milieu scientifique qui fait qu'on a du mal à penser différemment, quoi.
D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de Tim Noakes parce que justement, je pense que c'est le bon exemple d'une personnalité scientifique qui s'est beaucoup exprimée sur ces sujets-là. Et ce qui est surtout assez intéressant chez lui, c'est qu'à l'origine, c'est quelqu'un qui a été, on va dire, sachant qu'il étudiait principalement le sport, ça a été un des grands défenseurs de la consommation de glucides dans le monde sportif. Jusqu'à ce qu'il réévalue ça lui-même. Donc, et du coup, il a changé d'avis. Et apparemment, changer d'avis, c'était pas une bonne idée d'un point de vue, d'un point de vue social, en tout cas. Et c'est vrai que comme il a été attaqué en justice, mais déclaré innocent, je crois.
Il s'en est sorti, mais tu vois, il a quoi, 70 ans, au bout de combien d'années de procès et tout. Enfin, ça use quand même. Hein. Et la plupart des gens lâchent l'affaire. Ouais, mais Tinox, je ne sais pas si tu connais son histoire, mais elle est assez folle aussi. C'est vraiment un mec que j'estime beaucoup, que j'adore et qui a une histoire de fou. En fait, il a couru 70 marathons dans sa vie et il a écrit un livre qui s'appelle The Lore of Running, avec mon super accent anglais. Et en fait, pendant 30 ans, il a été une des personnes les plus écoutées en termes d'alimentation sportive. Et en fait, son credo, c'était de dire il faut manger des glucides pour faire du sport, c'est impossible de faire autrement et tout. Et en fait, si en sport, aujourd'hui, on considère qu'il faut manger des glucides, c'est un peu de sa faute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après 30 ans de ce discours-là, après avoir écrit donc le best-seller à ce propos, etc., et en fait, il s'est aperçu qu'il était victime de diabète de type 2. Et il s'est dit, c'est pas possible, je suis la personne la plus en meilleure santé dans ce monde parce que je cours 70 marathons, je fais du sport, je cours 100 km par semaine et pour autant je suis diabétique. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit je vais revoir un peu ma copie et je vais tout réétudier. Et quand même, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de courage parce que pour se dire j'ai peut-être faux et je vais tout réétudier, il faut quand même du courage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout réétudié et en parallèle, ou juste avant, Volek et Finet, dont je te parlais tout à l'heure, avaient commencé à étudier les régimes low carb. Et donc, Tim Noakes, il découvre tout ça. Et à un moment donné, il dit, il organise une conférence de presse avec je sais pas combien de journalistes. Et il dit, écoutez, je vous ai dit depuis 30 ans qu'il fallait manger des glucides pour faire du sport et pour être en bonne santé. Je me suis trompé. Et donc, quand tu vois le courage de dire, je vous ai dit de faire ça pendant 30 ans, je me suis trompé, c'est quand même assez fou, quoi. Et donc voilà, depuis ce jour-là, Tim Noakes, c'est un des plus grands défenseurs de l'alimentation cétogène et c'est hyper courageux de sa part de dire ça. Et donc il s'est pris pas mal d'attaques parce que ça dérange. Et puis quand en alimentation cétogène, mais est-ce qu'on offre la capacité aux gens de, par exemple, réduire leur prise de médicaments, etc. Donc, en fait, forcément, comme je te disais, je ne veux pas être dans la théorie du complot ou quoi, mais forcément, on comprend que d'être en bonne santé, ça ne rapporte pas grand-chose et que si les gens ont moins besoin de médicaments, ça rapporte moins d'argent à certaines personnes et que forcément, ça dérange certaines personnes,
Sachant que de toute manière, tu auras un parti pris des deux côtés de la barrière. Plus tu vas consommer une chose plutôt qu'une autre, du coup, telle personne va gagner plus d'argent, l'autre va gagner moins d'argent.
Ah ben ouais. Ah, mais il y a des intérêts de partout, tu vois. Faut pas être naïf. Moi, je sais quand je regarde beaucoup ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, au Canada, aux États-Unis, etc. Je vois très bien les industriels qui commencent à récupérer l'alimentation cétogène pour vendre de la merde, mais labellisée cétogène, mais ultra-industrielle. Et ben, forcément que c'est un mouvement qui va être récupéré d'une certaine façon. Et moi, je sais pas ce que je souhaite. Enfin, l'alimentation cétogène, pour moi, c'est pas une alimentation industrielle, mais pourtant je sais que ça va être récupéré. Tu vois, il y a des chercheurs et des labos qui veulent créer des médicaments pour simuler les bienfaits de l'alimentation cétogène, mais sans avoir à manger cétogène ou à subir une période d'adaptation. Donc, faut pas être naïf. Je sais que l'alimentation cétogène, c'est en train d'être repris parce qu'il y a du business à se faire. Mais voilà, faut accepter ça, quoi.
Bah,
Il faut garder
figure-toi que j'ai un très bon exemple là-dessus d'hier parce que on a essayé un produit qu'on avait commandé que ma compagne avait commandé, donc une pâte à pizza low carb, c'est pas cétogène mais low carb, donc avec très peu de glucides. Je crois que si ça me revient, on est à 3-4 grammes pour 100 grammes, donc 3-4%. Alors concrètement, c'était pas mauvais, hein. Mais par contre, lorsqu'on regarde la liste des ingrédients, le premier ingrédient, donc l'ingrédient majoritaire, je me souviens plus de toute la liste, mais le premier, c'était de la protéine de graines de tournesol, je crois. En gros, je sais même pas ce que c'est. Je sais ce qu'est une graine et je sais ce qu'est une protéine. Mais comment est-ce que tu extrais exclusivement la protéine de graines de tournesol?
Ouais, ça, on
Moi,
en
je
sait
suis
rien.
incapable de le faire chez moi.
Ouais, c'est
Donc,
clair.
je me dis qu'il doit y avoir un processus quand même de production qui doit pas être super simple, et donc ça doit être quand même assez transformé. Après, voilà, c'était pas mauvais. J'ai pas eu l'impression de manger une horreur non plus. Mais force est de constater que je me pose quand même des questions sur sa composition. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut presque avancer l'argument? Vaut-il mieux manger une pâte à pizza que tu as fait toi-même avec de la farine de blé, de l'eau et de la purée du sel? Ou est-ce qu'il vaut mieux la pâte à pizza cétogène avec la protéine mystérieuse que tu maîtrises mal?
Non, mais ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Moi, je sais, enfin, j'ai la réponse d'un point de vue personnel, mais je sais pas si, enfin, c'est dur de répondre, mais ouais, en effet, il y a plusieurs questionnements qui s'imbriquent. Plusieurs choix à faire qui s'imbriquent, et des fois, ils sont assez compliqués à combiner. Et tu vois, moi, par exemple, ça, c'est assez personnel, mais par rapport aux choix alimentaires ou d'ingrédients que je fais, ben, je sais que j'ai plusieurs attentes, et en fait, je me suis mentalement fait un petit schéma qui est assez pyramidal, où en fait, à la base de la pyramide, ça serait la première étape. Si tu valides cette étape, tu passes à la deuxième étape, etc. Et en fait, dans toutes ces considérations-là, ben, il y a pas mal de choses. Tu vois, je vais te les donner en vrac et puis après je vais essayer de faire la pyramide mentale que j'ai, mais il y a le fait de consommer des aliments non transformés, il y a le fait de consommer des aliments pauvres en glucides, il y a le fait de consommer local, et on va dire un quatrième, c'est le fait de consommer de façon zéro déchet, on va dire. Et en fait, tu vois, au niveau de la pyramide, eh ben moi, j'essaie d'imbriquer toutes ces considérations-là. J'essaie d'imbriquer toutes ces considérations-là en arrivant à un genre d'équilibre personnel. Mais ça, tu vois, c'est totalement personnel. Et chacun peut se faire sa petite pyramide dans son coin. Donc, en gros, si je peux te résumer ce que j'essaie de suivre un peu au quotidien,
Vas-y, raconte.
le premier. On va dire que le plus important, c'est que ce soit pauvre en glucides. Donc la base de ma pyramide, ça va être que c'est pauvre en glucides. Ça, c'est la première chose que je regarde quand je fais mes courses, quand je mange au resto, etc. Après, la deuxième étape, c'est que ce soit non transformé. Parce qu'en effet, on peut manger, comme on disait, pauvre en glucides. mais des produits hyper industrialisés avec des protéines ou des isolats de protéines de lait de je ne sais quoi. On ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, c'est pour en glucides. Et donc voilà, ça c'est assez important pour moi aussi, au maximum de manger des produits non transformés. Ensuite, au-dessus de ça, bah, il y a l'ancrage local des aliments. Donc ça c'est en troisième partie. Donc c'est-à-dire que j'essaye au maximum. Pour autant, bon, si un jour j'arrive pas, je veux dire, je suis comme tout le monde, je bois du café, je mange du chocolat, bah, je sais que c'est pas local. Bon, bah, on n'est jamais parfait. Et donc c'est pour ça que ça arrive en troisième position. Mais pour autant, au maximum, j'estime que c'est important. Et en dernier, bah, j'essaye de consommer un maximum zéro déchet, c'est-à-dire qu'au maximum, j'essaye d'aller à la boucherie, au magasin de légumes avec mes bocaux et mes sacs pour pas produire d'emballage, etc. Donc voilà, tu vois, si je... En fait, ça, c'est un genre de pyramide mentale que je me suis créé au fur et à mesure. Et du coup, si j'ai un produit entre les mains, bah, j'essaie de mettre tout ça en perspective et me demander rapidement, enfin je me demande pas vraiment parce que ça devient une habitude, mais si j'ai un produit entre les mains, ben, je sais rapidement ben, s'il va produire beaucoup de déchets, donc si plus il produit de déchets, moins c'est bien, plus il est local, mieux c'est, plus il est transformé, moins c'est bien. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'oriente dans le choix de ce que je consomme au quotidien, quoi. Et au final, je m'aperçois soit que 90% de mon alimentation, bah, c'est des fruits et légumes, enfin surtout des légumes en majorité bio, c'est de la viande, des œufs, au maximum local tant que je peux, et bio si possible. C'est des produits laitiers comme du fromage, de la crème ou du beurre, de l'huile d'olive, et puis à côté de ça, bah, un peu de chocolat et de café, un peu de... quelques graines pour mettre sur ma salade, du vinaigre. Donc voilà, c'est avec tout ça, ben on arrive à consommer. Enfin, j'arrive à m'alimenter au maximum de cette façon-là. Et puis après, ben, je veux dire, si un jour je mange une barre de céréales, j'en ai déjà eu dans les mains des barres de céréales qui sont cétogènes mais industrielles. Ben, tu vois, au bout d'un moment, faut lâcher un peu du lest. On n'est pas parfait. Je vais pas m'évanouir sur le champ et voilà quoi. Tu vois, même si je mange une toute petite cuillère d'une crème anglaise ou j'en sais rien, et ben au bout d'un moment il faut lâcher un peu du lest et faut pas se flageller à chaque truc.
Ça t'empêchera pas de goûter, d'expérimenter, de découvrir d'autres choses. C'est tu peux, enfin je pense qu'on partage un petit peu la même vision de la chose, c'est-à-dire que je sais que mon palais moi a beaucoup changé. Donc il y a des choses que je vais pas apprécier. Donc par exemple, je sais pas, des trucs que j'aimais bien avant, par exemple, c'était les tartes au citron. Maintenant, je les trouve trop sucrées. Mais par exemple, de temps en temps, on va me dire, ah tiens, ça c'est vachement bon, c'est fait avec tel ou tel truc. Je me dis, bah, c'est vrai que je connais pas. Bah, je veux bien goûter. Mais acheter justement la tarte en entier, peut-être pas. Donc tu te dis, bah. Si on peut goûter, ouais, pourquoi pas. Enfin, tu vois, après, c'est intéressant de découvrir et tu te fais ton avis un peu là-dessus. Même si en soi, tu penses que ça te correspondrait pas trop. Et puis, ça t'ouvre aussi d'autres portes pour découvrir des choses différentes, je pense.
Ouais, c'est clair. Ben, y a plusieurs choses dans ce que tu dis. La première, c'est que le palais, il s'adapte vraiment à tout. Et ça, c'est assez impressionnant. Par exemple, comme tu parlais de la tarte au citron, ben, c'est un super exemple. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du chocolat, c'est-à-dire que a priori, le chocolat à 70% de cacao, bah, c'est un chocolat qui est assez fort quand même, qui est considéré comme un chocolat noir. Pour autant, maintenant, mon palais est complètement déshabitué du sucre. Je mange un chocolat à 70% de cacao, j'ai l'impression qu'il est hyper sucré. Alors qu'avant, je considérais qu'il était quand même assez fort. Parce que j'ai pris l'habitude de manger du chocolat plus à 100% de cacao. À l'époque, je trouvais que c'était assez horrible et hyper fort, mais maintenant, j'adore ça, quoi. La tarte au citron, c'est pareil. Ouais, maintenant, je pense que je pourrais pas manger une part de tarte au citron. Enfin, tu vois, j'aimerais ça et tout, mais... je sais l'effet que ça va me faire, je sais que je vais avoir la glycémie qui va monter en flèche et j'ai pas forcément envie. Pour autant, bah, tu vois, quand quelqu'un à côté de moi mange un gâteau quoi, bah, je mange un quart de cuillère à café, bah, des fois j'aime bien manger pour avoir le goût, juste pour voir, mais tu vois, ça me dérange pas, mais pour autant, je sais que je vais pas en manger une. Après tout ça, ça dépend aussi du caractère de chacun et de pourquoi chacun le fait, tu vois. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir commencé en bonne santé. A priori, je me dis qu'au quotidien, je tolérais quand même pas trop mal les glucides. Et donc, je sais que si je vais manger un petit peu de glucides, eh ben, mon corps va quand même bien le tolérer. Après, si une personne a des problèmes de poids et qu'elle sait que si elle mange un petit peu trop de glucides, eh ben, ça va complètement exploser ou dérégler son métabolisme, eh ben, je ne conseille pas à cette personne de le faire. Ou si la personne le fait par rapport à un problème de santé plus grave comme de l'épilepsie, du diabète et tout, eh ben non, je conseille. Enfin, c'est pas une bonne idée de le faire. Donc là, c'est à chacun d'adapter à pourquoi il a décidé de le faire et à son corps, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas parfait. En 3 ans, je peux pas dire que j'ai jamais mangé glucides. Ouais, bah, de temps en temps, une fois par mois, je me fais. Si j'ai envie de me faire un repas avec des glucides, ben, écoute, je me le fais. Faut pas se flageller. Je sais que c'est assez tabou dans la communauté, tu vois, mais je pense que personne n'est parfait et que bah, de temps en temps, si t'es amené à bouffer chez des gens, t'as pas le choix ou quoi, bah, faut pas non plus se faire du mal pour rien. Il faut. Je veux dire, le corps il va s'adapter. Le lendemain, ça sert à rien de faire 6 jours de jeûne. Bon, bah, tu repars normalement le lendemain. Ouais, peut-être que tu vas avoir un petit coup de mou ou tu vas avoir plus faim, mais. Mais ouais, ça c'est, je sais que ça c'est tabou dans la communauté, mais en même temps, bon, ben on est. Je pense que faut pas tomber en religion non plus. Si on mange un peu plus de glucides à un moment donné, bah écoute, c'est comme ça, quoi. Mais pour
Ouais,
autant, bah.
c'est assez intéressant ce que tu dis. C'est un sujet extrêmement vaste. C'est-à-dire
Ouais, bien
que
sûr.
oui, on a des pratiques alimentaires. À quel point est-ce qu'on se peut permettre de s'en écarter? Là, pour le coup, bon, c'est peut-être aussi parce que moi, je fais ça depuis 10 ans maintenant. Donc, j'ai peut-être un, j'ai, enfin, j'ai eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que j'ai
Ouais,
pas
bien
mal navigué
sûr.
dedans. Je peux dire que globalement, les meilleures périodes, ça a toujours été celles qui ont été très faibles en glucides, mais ça ne m'a pas empêché d'être beaucoup plus souple
Ouais, bien sûr.
par période et sans forcément de grosses conséquences. Et par contre, après, je vois des gens qui, typiquement, ont eu des gros problèmes d'obésité. Ont développé du coup des problèmes de santé associés à ça, même s'ils en sont revenus ou qu'ils sont en train d'en revenir, le moindre petit dérapage fait très très mal parce que
Ouais, bien sûr.
ça réveille en fait déjà pas mal d'impulsions, ça réveille un ancien mode de vie. C'est un peu comme dire, parce qu'on parle de sucre, je me dis, oh, c'est pas un gâteau, c'est pas une crème brûlée qui va te. Et pourtant, on a l'habitude du fumeur. Qui va te dire, alors moi tu me redonnes une cigarette et c'est fini.
Ouais, bah c'est exactement
L'ancien
ça.
fumeur qui va dire, tu me redonnes une cigarette, c'est terminé. Je retombe dedans
Ouais.
et ils tournent autour. Ils savent que s'ils la reprennent, ça risque de les faire plonger.
Ouais, c'est clair.
J'ai rarement vu les gens questionner ça. Alors pourquoi pas le sucre, après tout, c'est aussi assez addictif.
Ouais, bah c'est clair, je pense que c'est à chacun de faire en fonction de soi. Et en effet, il y a des gens qui peuvent. Tu vois, il y a des gens qui peuvent manger une part de gâteau et ça leur fait rien, une part de gâteau par semaine ou par mois. Et ça leur fait rien, tu vois. Mais il y en a d'autres pour qui, eh ben, ça va rappeler des pulsions de sucre terribles et pour qui, en effet, c'est pas une bonne idée de consommer du sucre comme ça, quoi. Ben, ça va réveiller des pulsions, tu vois. Comme tu disais, ben, le sucre, c'est une addiction comme la cigarette. Et eh ben, un ancien fumeur, tu vas pas lui dire, bon, allez, de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Et après, ouais, donc c'est. Pour ça, tu vois, moi, je suis toujours assez gêné pour donner des espèces de recommandations ou des préceptes à suivre à la lettre. Moi, je suis plutôt dans une approche où je donne des exemples, je donne des grandes lignes. Mais après, je trouve que le plus important, c'est à chacun de les interpréter en fonction de soi et en fonction de ses convictions. Mais ouais, en effet, je pense que, enfin, je suis assez convaincu d'un point de vue personnel que. Même si tu n'en manges pas beaucoup, bah, faut réveiller des pulsions de goût sucré, eh ben, c'est pas forcément une bonne chose. Tu vois, même en alimentation cétogène, bah, on peut faire beaucoup de desserts avec des édulcorants et tout. Tu vois, moi j'en fais, j'ai de l'édulcorant chez moi et je fais de temps en temps des gâteaux, tu vois. Parce que ça fait plaisir de temps en temps. Ou alors si je vais chez des gens, bah, je dis j'apporte des desserts et je fais un dessert à base d'édulcorants. Pour autant, même si je le fais, je suis convaincu que c'est pas une bonne solution de manger des produits avec du faux sucre ou des substituts de sucre au quotidien, parce que le plus important, c'est de se déshabituer du goût sucré pour, comme on disait, retrouver une sensibilité au sucre plus grande. Donc tu vois, les gens qui mangent cétogène, mais qui mangent un dessert ou un truc sucré à tous les repas, moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Je pense que tu peux manger des choses au goût sucré avec des substituts, mais de façon assez occasionnelle, parce que le plus important, c'est de se déshabituer du goût du sucre.
Ouais, ça, c'est un, je pense que, comme tu dis, c'est un gros sujet en plus dans la communauté. Et ça, je l'ai vu aussi bien sur dans la sphère francophone que dans la sphère anglophone.
Ouais, c'est clair.
Il y a vraiment deux camps. C'est-à-dire, et je pense que, après, c'est peut-être plus une impression, mais j'ai l'impression que le camp du remplacement de sucre est bien plus développé que le camp de la suppression du sucré. Et ouais. En tout cas, je passe pas beaucoup de temps dans ces groupes, mais quand je navigue un peu dans les groupes Facebook et autres communautés en ligne qui parlent de cétogénèse, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est essentiellement une plaque d'échange pour des recettes de faux pain et de faux gâteaux et de fausses glaces. Et je vois finalement moins de gens qui proposent ma recette préférée du pot-au-feu, par exemple.
Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et tu vois, moi, pendant assez longtemps, j'étais assez gêné par le fait de poster des recettes, parce qu'en fait, pour moi, manger cétogène, mais en fait, t'as même pas besoin de recettes, quoi. Après, je dis ça parce que moi, j'ai toujours été à l'aise en cuisine et je sais que j'aime pas cuisiner en suivant une recette. J'aime bien cuisiner au feeling et je suis assez à l'aise avec ça. Je sais qu'en mettant 3 légumes et un peu de viande ou un peu d'épices, je sais que j'ai réussi à faire un plat sans suivre de recette. Il y a des gens qui ont plus besoin de suivre une recette à la lettre, ça dépend de chacun.
Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle nos populations ont tant de mal avec l'alimentation? C'est peut-être aussi parce qu'on ne sait même pas faire, en fait.
Ben ouais, non, mais c'est clair. Et c'est pour ça que moi, on a perdu ce bon sens de cuisiner des choses simples, de prendre du temps pour cuisiner. Après, tu vois, j'essaie toujours de prendre du recul et de penser les choses assez globales, mais je pense que c'est un problème général où on n'aime plus faire à manger parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Je veux dire, on bosse trop, on rentre tard chez soi. Je veux dire, c'est plus simple de commander un truc ou d'acheter des plats tout faits que de cuisiner. Enfin, a priori, ça prend moins de temps. Donc en fait, moi, je m'intéresse à l'alimentation cétogène, mais c'est aussi et surtout penser sa santé et penser son mode de vie de façon plus globale, tu vois. Bah oui, pour moi, passer du temps en cuisine, c'est quelque chose d'important, donc c'est quelque chose que je priorise par rapport à autre chose. Et ça, chacun est différent, tu vois. Si quelqu'un préfère passer du temps s'il préfère passer du temps à jouer à je ne sais quoi ou à moins de temps parce qu'il travaille trop, je vais pas. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de temps pour faire du sport et qu'il n'a pas de temps pour cuisiner parce qu'il rentre à 20h du boulot chez lui chaque soir, je ne vais pas lui dire oh t'es fainéant, t'as pas le temps pour cuisiner. Je veux dire, c'est quand même. C'est des modes de vie qui sont terribles, qui sont invivables, qui sont hyper stressants. Et ouais, en effet, c'est des modes de vie qui encouragent à privilégier l'alimentation facile, privilégier la malbouffe. Et c'est pour ça que j'essaie de promouvoir une alimentation qui soit plus naturelle, essayer de retrouver du bon sens, du plaisir à cuisiner, retrouver des produits bruts, au-delà du simple fait de manger pauvre en glucides. Tu vois, je pense qu'on peut manger une alimentation assez glucidique, enfin plus classique, et être en super santé, si tu as une alimentation non transformée, si tu manges des fruits et légumes, si tu limites les mauvaises graisses, si tu limites les sucres ajoutés, etc. Je veux dire, il n'y a pas que le cétogène pour être en bonne santé. Tu peux être en bonne santé sans manger cétogène. Mmh. Et parce que c'est un mode de vie.
D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des gens qui le sont, qui sont en bonne santé et qui ne sont pas du tout en cétose.
Ouais, ça c'est clair.
D'ailleurs, il n'y a pas de problème avec ça finalement. Mais c'est
Ouais,
sûr que
effectivement.
la dimension de temps, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais
Ouais.
ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que oui, ça prend du temps pour cuisiner. Mais en fait, plus tu vas le faire, enfin, plus ça va être facile, quelque part. C'est-à-dire que
Ouais, c'est clair.
ça reste une compétence. Et ça reste, enfin, c'est pas pour rien que c'est aussi un métier.
Ah, bien sûr.
Que d'être cuisinier et qu'il y a des choses qui s'apprennent. Après, les bases pour le quotidien, finalement, sont pas si compliquées que ça. Et puisque le seul véritable critère de si c'est bon ou pas bon, c'est ton palais. Si ça te plaît, ça te plaît pas.
Ouais, bah c'est clair, c'est pas compliqué, je pense qu'il faut se lancer, faut pas avoir peur, et puis ouais, bah après en fait quand t'as l'habitude, tu te rends compte que ça prend pas tant de temps que ça si tu t'organises, c'est pas plus cher que ça si tu t'organises. Mais c'est une question en partie de choix et en partie aussi de chance ou de capacité, tu vois, c'est. Comme je disais avec le sport, bah, le mec il bosse 60 heures par semaine, je vais pas lui dire, t'es fainéant, bah, tu fais pas de sport. Donc, tu vois, moi je suis pas pour. Je suis assez mal à l'aise dans tous les groupes de développement personnel et tout, à dire c'est que il n'y a que l'initiative personnelle qui compte. Bah non, malgré tout, on est conditionné et on fait un peu avec ses possibilités propres. Mais après, au sein de ses capacités, ses possibilités. Eh ben, je pense qu'on a tout à gagner à essayer de faire au mieux et de changer un petit peu ses habitudes comme on peut, quoi.
Ouais. Bah, après, voilà, chaque personne a ses propres contraintes, en fait, avec lesquelles il faut composer.
Ouais, bien
On en
sûr.
a parlé un petit peu, même simple fait d'avoir son entourage qui fait pas la même chose que toi, ça peut vachement changer les choses.
Ouais, c'est clair.
Est-ce que tu nous laisserais pas, avec justement, puisqu'on parle de recettes de cuisiner, est-ce que tu nous laisserais pas avec ta petite reco-recette, puisque c'est quand même un de tes cœurs de spécialisation?
Ouais, bah écoute,
Et du coup, je la mettrai en lien.
ça marche. Bah, si je devais faire une recette, bah c'est pas évident parce que moi là j'étais pas mal sur les recettes d'hiver et on arrive au printemps, donc vu que je mange de saison, bah j'ai un peu terminé les recettes d'hiver et je vais plutôt m'orienter vers des recettes de printemps. Mais ce qui a vachement bien marché cet hiver, c'était la poire aux flettes. C'est un plat que j'aime beaucoup parce que il peut montrer qu'on peut adapter des recettes traditionnelles en cétogène. En fait, la poire aux flettes, c'est une recette où c'est comme une tartiflette, sauf que je vais remplacer les pommes de terre par des poireaux. Donc, bah, tu pourras laisser le lien en description, mais c'est hyper simple.
Exactement.
C'est que je fais des poireaux avec des lardons ou du bacon, des oignons, un peu de crème. Je mets ça au four avec du reblochon que j'ai acheté chez ma mère en Savoie. Et puis voilà, c'est un super exemple de plats traditionnels qu'on peut adapter en cétogène, qui est hyper bon, hyper savoureux, que tu peux partager en famille, et les gens te diront. À la base, ils vont dire, ah non, moi, une tartiflette, c'est qu'avec des pommes de terre, et puis en fait, ils vont oublier que. Enfin, ils vont juste en se souvenir qu'ils ont mangé un super plat, tu peux manger ça en famille, c'est super simple à faire, c'est délicieux.
Ouais.
Donc voilà, tu peux partager ce plat-là.
Bah écoute, je vais rajouter ça. D'ailleurs, figure-toi que ta poire aux flettes, j'en avais déjà entendu parler, puisque je crois que c'est mon menu de demain soir.
Ah ouais,
Donc,
c'est toi qui cuisines à la maison ou c'est ta
alors,
compagne?
souvent c'est moi, mais là pour le coup, enfin souvent, on fait un peu moitié-moitié, mais c'est vrai que c'est plus souvent moi parce que j'ai tendance à travailler de la maison. Donc forcément, je prends un peu plus le temps. Mais là, pour le coup, je pense qu'elle a été inspirée justement ta recette. Hein. Donc, je la mettrai en lien et
Bah
puis
c'est cool.
j'en profiterai pour mettre ce que j'en pense.
Ouais, bah tu me diras ce que t'en penses. Bon,
Ouais.
pas de
Bah,
doute, tu vas te régaler.
écoute, Olivier, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et de partager un peu ton expérience avec tout le monde.
Eh ben écoute,
Donc,
merci
est-ce
à
que tu peux
toi.
nous dire un peu où on peut te retrouver?
Ouais, ben écoute, mon site internet, c'est lowcarbfrenchy.com. Donc low carb comme LAU, non, LOWCARB, Frenchy, FRENCHIE.com. Et puis ouais, sur Facebook, Instagram et YouTube, c'est low carb Frenchy. Donc vous
Ok,
pouvez me
bah
retrouver et
je
puis
mettrai le lien en description.
suivez-moi. C'est cool. Bah écoute, merci beaucoup pour l'interview, pour le temps qu'on a passé. C'était hyper sympa et je suis content d'avoir découvert ton travail aussi. Et je vais te suivre plus en détail.
Merci à Olivier d'avoir partagé son expérience avec nous. Et pour information, la peau reflète était excellente. Vous aussi, prêtez le serment d'hypocrite en nous retrouvant sur la page Facebook de l'émission. Et n'hésitez pas à nous poser des questions de santé dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcasts. Et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À bientôt.